Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast, un épisode short and sweet où on va aborder trois erreurs communes sur lesquelles j'aide mes clients et clientes profs de yoga. Ça veut aussi dire trois choses que tu vas pouvoir améliorer dans ton business dès aujourd'hui. Juste un petit disclaimer, il se peut que tu entendes quelques bourrasques de vent de temps à autre. Tout va bien, je suis à l'abri, mais ça peut être un petit peu impressionnant. L'idée donc de cet épisode aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas de venir mettre en avant forcément des choses qui ne fonctionnent pas dans ton business, mais en tout cas, te laisser un peu d'ouverture pour progresser sur certains aspects, puisqu'il y a des choses effectivement que je vois régulièrement, que je vois souvent. Donc en général, les profs de yoga qui travaillent avec moi, ou même les profs de yoga dont je regarde par exemple les comptes ou autres, utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour promouvoir leurs offres, pour être en contact avec leur audience. En général aussi, donc, tu es peut-être ce professeur de yoga-là qui enseigne le yoga dans quelques cours et puis, eh bien, tu veux tout simplement développer ton activité, développer ton business et pour ça, tu commences un petit peu à créer des offres comme des programmes, comme un membership ou peut-être même quelques packs ou des petites offres ou même des replays de vidéos que tu vends. Et pour ça, tu mets en place en fait un marketing et des stratégies de vente ou en tout cas, tu as à cœur de pouvoir vendre ces produits. Et c'est vraiment là-dedans que je veux qu'on plonge un petit peu en profondeur aujourd'hui, donc sur ces offres en fait que tu crées et que tu veux marketer et vendre. Alors, la première erreur commune que j'observe, c'est de ne pas être personnel, dans ton marketing. De pas humaniser, entre guillemets, ton marketing. Alors, ce qui est très drôle, hein, parce que d'ailleurs, souvent, les profs de yoga sont vraiment en recherche d'authenticité dans leur communication. J'entends souvent, je veux une communication authentique, naturelle, je veux pas vendre de manière pushy, etc., etc. Et pour autant, lorsque j'audite les comptes Instagram de mes clients, donc l'idée étant de donner des tips justement pour améliorer ta visibilité, pour avoir plus d'abonnés qualifiés et pour avoir plus d'engagement, eh bien souvent je fais le même constat, c'est que sur le compte qui te sert donc très souvent en fait à communiquer sur tes offres, eh bien il y a des photos de café, des photos de paysages, des photos éventuellement du studio, de matériel de yoga, certaines fois aussi des photos de posture de yoga, mais souvent des photos prises d'un peu loin ou pas forcément avec une bonne définition, et puis aussi beaucoup de photos de stock de bandes de données d'images. Mais très souvent, aucune d'elles n'est vraiment une photo de toi, un portrait de toi. En tout cas, c'est très exceptionnel quand je vois vraiment des photos qui connectent, en fait, des photos où, on te voit regarder la personne qui lit ton compte, la personne qui se promène sur ton compte. Et donc, en fait, ça fait quoi ? Ça donne l'impression d'un business sans visage. Un business sans visage, un business sans sans la mise en avant, en fait, sans toi, quoi. Alors que les gens, ce qu'ils veulent, c'est connecter à un visage, connecter à un cœur, connecter à une âme, et tu leur donnes pas, du coup, cette opportunité de communiquer avec toi en tant qu'humain. Alors qu'il est bien évident qu'on va pas aller acheter un programme ou même se joindre à un membership ou voilà même des paquets de vidéos ou autres si on n'a pas connecté avec toi dans notre monde de prof de yoga, de coach sportif, de thérapeute holistique, etc. C'est hyper important, et même de coach, si c'est toi qui coach, c'est hyper important de connecter avec ton audience. Donc des photos à la fois de toi, des photos où on te voit bien, c'est pour ça que j'insiste sur l'idée des photos un peu mode portrait, mais je pense que tu as compris là où je voulais en venir, et puis aussi des histoires sur toi. Alors ça, j'en parlais dans ma dernière newsletter, mais le fait à un moment donné d'oser s'exposer. Et pas forcément besoin que ce soit super intime en fait, mais juste ce qui va te permettre de connecter avec ton audience. Donc ça peut être de partager tes routines, ça peut être de partager tes challenges, ça peut être de partager ce qui peut te mettre en difficulté. Alors encore une fois, pas pour aller vers quelque chose de larmoyant, mais au contraire pour partager avec nous comment tu gères ça. Et tout ça, en fait, ça va venir t'humaniser, et tu serais vraiment absolument choquée de voir la différence que tu peux avoir en termes d'engagement et comment ce type de post vraiment connecte avec ton audience et aussi t'amène en fait beaucoup de sollicitations, de commentaires, etc. Et je souris en enregistrant cet épisode parce que ça a été le cas cette semaine justement pour une de mes élèves qui a publié un post peut-être un peu plus personnel que ce qu'elle a l'habitude de partager. Et donc en fait ce post tu peux le retrouver si tu veux sur le compte Instagram Le Laboratoire du Prana, qui est le compte de Julie qui parle de yoga et de naturopathie. Et en fait, elle a partagé un post dont l'accroche était « Et un jour, j'ai fait le lien entre mon hypersensibilité et tous mes maux. » Et en fait, un petit peu sur la base de ce que j'expliquais en termes de storytelling dans ma dernière newsletter, voilà, cette accroche a vraiment suscité la curiosité, mais c'était aussi une manière de s'exposer, de raconter son histoire, et puis la morale de cette histoire pour elle, ou la leçon qu'elle en a retirée. Et donc c'est un post qui lui a emmené beaucoup plus d'engagement que ses autres posts, mais aussi près d'une trentaine de commentaires, chose à laquelle elle n'était pas habituée. J'aimerais juste, pour conclure sur cette idée-là, de dire à quel point les gens qui vont venir pratiquer le yoga avec toi, je dirais que la pratique du yoga, ça peut être quelque chose quand même d'un peu ou de vraiment même personnel. Et donc, quelque part, en venant pratiquer avec toi, il y a une part vulnérable de que tes clients en fait te mettent entre les mains, ou qu'ils partagent en tout cas avec toi. Il peut y avoir une certaine vulnérabilité dans la pratique du yoga qui va être partagée avec toi, et donc ils ont besoin aussi de se sentir en confiance avec toi, et en humanisant ton compte, tes histoires, tes posts, etc. Encore plus en ligne, du coup, puisque effectivement, il n'y a pas cette connexion physique du présentiel. Donc voilà, c'est super important d'avoir cette marque. Donc on peut parler de personal branding, surtout dans l'idée vraiment de mettre un visage sur ta marque et de connecter régulièrement de cette manière-là à travers à la fois tes photos et à la fois tes histoires avec ton audience. La deuxième erreur commune que je vois, c'est le fait en fait d'offrir, de packager des offres en fait, des choses que tes clients en fait peuvent avoir gratuitement en ligne. En gros, effectivement, c'est il n'y a pas de différence entre ton contenu gratuit et ton contenu payant. C'est-à-dire que tu vas venir mettre un prix finalement sur un cours de yoga vinyasa de 60 minutes préenregistré que tu vas vendre 5, 8, 10 euros. Alors, et puis si tu le fais pas à l'unité, ben, tu vas venir faire un pack de vidéos voilà, sur lequel tu vas mettre un prix et voilà. Et en réalité, quelle est la différence entre ce que je vais avoir dans ce contenu-là versus des pratiques que je peux trouver gratuitement sur YouTube, des cours de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes que je peux pratiquer tous les jours et donc du coup tout à fait avoir une pratique régulière avec des vidéos gratuites que je vais trouver sur YouTube. Alors attention, ça ne veut pas dire justement qu'il n'y a plus ou pas de place pour une pratique de yoga payante. Ça ne veut pas dire non plus et surtout pas que le marché est saturé en ce sens, mais ça veut juste dire... Et c'est un petit peu aussi comme ce que je mets souvent en avant entre le présentiel et le online, ça veut dire qu'il faut un petit peu penser différemment et aller un petit peu plus en profondeur dans tes offres. Donc je m'explique, la différence que je vais avoir entre une vidéo sur YouTube et des offres de yoga payantes, eh bien ça va être effectivement du support plus personnalisé, ce qu'on appelle l'accountability aussi, donc ça peut être aussi une communauté d'échange, des groupes de parole entre guillemets, ça peut être aussi du yoga plus qui répond justement à une thématique plus spécifique, donc que je vais pas forcément trouver à ce point-là hein, dans des vidéos gratuites, etc. Donc en fait l'idée, ça va être de venir packager une offre, mais avec une valeur ajoutée. C'est-à-dire c'est pas juste des cours de yoga ou c'est pas juste un amas de vidéos préenregistrées. Ça, il y a de fortes chances effectivement que ça fasse nos ventes, zéro vente. Donc l'idée à ce moment-là, c'est un peu de faire un pas en arrière, de prendre un petit peu de la hauteur et de te dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon client? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui, pourquoi elle achèterait une offre? Ça va être quoi sa motivation à acheter une offre chez moi versus les vidéos gratuites qu'elle peut trouver sur YouTube? Donc, c'est vraiment cette question-là qu'il faut que tu te poses et qui te permettra de venir ajouter dans tes offres ce qui va un petit peu faire, enfin, des composants ou des ressources qui vont un petit peu faire la différence avec ce qu'on peut trouver partout. Et souvent, en fait, toi-même, tu as probablement fait l'expérience de ça, c'est-à-dire que tu as trouvé des cours de yoga à droite, tu as peut-être trouvé du journaling à gauche, tu as peut-être trouvé un atelier ou un remède quelconque ailleurs, et ainsi de suite. Et en fait, comment toi, tu as intégré tout ça? Comment toi, tu fais la synthèse de tout ça pour proposer cette offre sur mesure, en fait, ou à l'intérieur de laquelle, en fait, ça va être ton propre mix and match, ta propre manière d'avoir intégré tous ces enseignements, de tout ce que tu penses qu'il peut y avoir besoin en dehors du tapis aussi, pour mieux pratiquer, pour avoir une pratique plus régulière, pour progresser sur tel sujet, pour mieux appréhender le yoga en dehors du tapis, par exemple, si tu es plus dans un aspect philosophique, etc., etc. Et donc, voilà, qu'est-ce qui va faire la différence entre ton offre et ce que je peux trouver gratuitement? Et donc, comment tu viens, en fait, customiser ça de par tes intégrations, de par la synthèse de ce que toi, tu as appris? En fait, clairement, hein, tu n'inventeras rien. Tout a quasi déjà été inventé dans ce monde. Ce qui va faire que ton offre va être unique, c'est la manière dont tu vas la structurer, la dessiner, la packager, ce que tu vas mettre à l'intérieur, parce que tu vas te mettre justement dans le legging de ton client idéal et te dire, ben voilà, la solution idéale, d'après ce que je sais de lui, ce que j'identifie, ce que moi j'ai eu besoin ou ce que j'ai justement ce que j'en ressors aujourd'hui, eh bien voilà, c'est de construire une offre de cette façon-là. Et donc ça, c'est super important et c'est ce qui fera aussi que tu auras du succès en termes de vente versus juste vendre en fait tout simplement des cours préenregistrés ou un pack de cours préenregistrés. Enfin, la dernière erreur, enfin en tout cas voilà, quand je dis erreur, c'est une erreur pour moi, c'est toujours une belle expérience quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, donc la dernière chose que je vois très souvent de manière commune, c'est un petit peu la problématique des lancements émotionnel. Alors, je m'explique, hein, on parle souvent de lancement ou en tout cas de manière de vendre ses offres, que ce soit sur lancement ou en evergreen dans cette émission. Mais effectivement, Donc, moi, ce que j'enseigne, hein, c'est de planifier son lancement, de l'anticiper, de pré-lancer dans le sens réchauffer son audience à travers son contenu ou voilà des lives ou peu importe, des prises de parole par rapport à l'offre qu'on va lancer et puis ensuite d'avoir une stratégie pour son lancement. Alors après, la stratégie, ça peut être une slow stratégie, hein, c'est-à-dire que ça peut être contacte-moi en DM, c'est pas forcément un challenge, une séquence email de vente, etc., etc. Ça peut être des choses très slow. On voit d'ailleurs toutes ces possibilités-là dans Yogi Bizline et dans les coachings collectifs. Mais ce qui est certain, en fait, c'est que si on ne prend pas la peine de s'asseoir et à un moment donné d'avoir un petit peu de clarté sur le plan qu'on va mener et sur voilà, les étapes de notre lancement, qu'est-ce qu'il définit en fait un petit peu de A à Z, eh bien, le risque, et ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'à partir d'un lancement, aussi passionné qu'on soit par notre offre, et c'est d'ailleurs même ça souvent qui peut apporter la conséquence dont je vais parler, eh bien, on rentre, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, dans une phase de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va venir exposer l'idée qu'on a eue, la pensée qu'on a eue, comment on l'a concrétisée, comment voilà, on va venir exposer cette offre qui où on a mis tout notre cœur et qu'on pense souvent être voilà la solution, la super solution pour notre client. Eh bien, on va venir là, voilà, on va show up, on va venir montrer ça au monde. Et donc, à partir de là, quoi qu'on veuille, on rentre dans une phase de vulnérabilité, de comment ça va être accueilli, comment les gens vont réagir, est-ce que ça va fonctionner ou pas, etc., etc. Alors, la première chose, j'ai envie de dire, mais ça se travaille effectivement en amont, c'est déjà avec quelle intention je lance mon offre, comment mon offre elle a été conçue, sur la base de quoi, etc. Donc ça, voilà, stratégiquement et pas que stratégiquement, parce qu'en fait c'est aussi des questions qu'on vient se poser par rapport à soi, c'est-à-dire dans quelle énergie on est à partir du moment où on lance cette offre. Est-ce qu'on est dans une énergie de manque? Est-ce qu'on est à l'inverse, voilà, dans une énergie peut-être plus d'une idée, enfin peu importe, mais en fait ou dans une voilà, d'où vient notre inspiration, enfin il y a plein de questions en fait à se poser avant de lancer une offre. Donc ça, c'est ce qu'on apprend quand on construit finalement une offre et quand on vient choisir entre guillemets la manière dont on va lancer son offre, ok. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait le point sur le pourquoi on fait ça et comment on va le faire, effectivement on vient en général, donc, organiser un petit peu le plan, donc le plan de contenu avant de lancer, les dates à partir desquelles on va lancer l'offre, voilà, éventuellement les différents bonus ou les différents éléments qui vont pouvoir provoquer des déclics chez notre client pour rejoindre ou pas notre offre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on ne prend pas le temps de s'asseoir pour préparer le plan, en fait, hein, préparer le process, eh bien, effectivement, il peut se trouver que au moment où on décide d'exposer notre idée, d'exposer notre offre, peut-être que ça va pas tout de suite recevoir l'engouement qu'on attendait ou tout de suite partir un petit peu en fire comme ce qu'on aurait imaginé. Et là, comme on est à ce moment-là, il y a de fortes chances, hein, c'est juste les up and down de l'entrepreneuriat, qu'on soit plus vulnérable, et eh bien du coup ça peut venir engendrer des émotions qui en fait devraient pouvoir être gérées justement si on avait un plan. Et là, du coup, on va peut-être se laisser un petit peu submerger et le risque, c'est d'aller au clash, d'abandonner trop tôt, trop vite, de pas aller jusqu'au bout, en fait, du processus. Donc, par définition, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que les lancements sont et seront toujours émotionnels parce qu'on est plus vulnérable à ce moment-là. Et donc, encore une fois, le risque, si on n'a pas suffisamment de clarté et d'engagement sur notre plan de lancement, entre guillemets, eh bien, c'est de fermer tout ça et de jeter tout ça à la poubelle bien trop prématurément. Et en plus, l'autre, le deuxième effet qui se coule, en fait, c'est que toutes ces émotions, cette énergie qui va être fluctuante ne permet pas, en fait, de la stabilité quelque part de notre part pour notre audience. Une audience qui peut avoir besoin de temps parce que n'oublions pas que personne n'achète pareil. Donc là, il y a la manière dont vous, vous allez choisir de lancer, de faire votre lancement qui vous correspond. Mais il faut aussi quand même intégrer, selon à qui vous vous adressez, que effectivement personne n'achète pareil, que certaines personnes vont tout de suite savoir que cette offre est faite pour eux et passer à l'action. D'autres vont avoir besoin de temps, vont avoir besoin de détails, vont avoir besoin de chiffres, vont avoir besoin de témoignages, vont avoir besoin d'être en contact, peut-être même, pourquoi pas, avec vous. Donc, il y a ce process de vente, en fait, qui peut prendre plusieurs jours pour certaines personnes, le temps qu'elles prennent leur décision. Et donc, c'est trop dommage, justement, quand on va pas jusqu'au bout du plan, et encore plus quand on n'a pas défini de plan en amont, justement, de se laisser embarquer par ses émotions, comme je dis, bah, d'être un peu trop tombé amoureux de son idée, de son lancement, et puis bah, finalement, d'être déçu si c'est pas réciproque, et d'arrêter les choses trop prématurément. Donc, de manière à vraiment avoir plus de clarté, de stabilité dans ces lancements et pour éviter cette vague émotionnelle lors d'un lancement, eh bien, vraiment, je recommande, et c'est ce que j'enseigne aussi, effectivement, de faire attention à ça, enfin, de savoir l'anticiper et de tenir jusqu'au bout. D'ailleurs, enfin, voilà, on a eu plusieurs expériences de lancement récemment dans Yogi Bizlang. Je pourrais citer Sarah Perrault qui a lancé son programme prénatal Gaïa. Et en fait, dans le programme Yogi Bizlang, il y a tout ce qu'il faut pour choisir comment on veut moduler soi-même son lancement de manière à ce qu'il soit le plus personnalisé, en phase avec notre énergie, etc. Par contre, le conseil et le seul conseil en fait que je donne à mes clientes avant leur lancement, c'est quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, va jusqu'au bout. C'est pas un engagement long terme, c'est pas une promesse qu'on prend et qu'on va devoir tenir pendant plusieurs mois. Un lancement, une période de lancement, c'est 7 jours, allez, peut-être 10 jours max, et encore, moi je trouve que c'est super long, 10 jours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il sera, voilà, le temps, le moment de faire le bilan et de se dire, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi, comment, qu'est-ce qui a pas fonctionné, etc., ça arrivera très vite. Donc vraiment, c'est important d'aller jusqu'au bout de l'action pour pouvoir ensuite avoir matière à analyser, pour pivoter, rebondir, arrêter, stopper, changer, enfin voilà, quoi qu'il en soit. Mais pas jeter les choses à la poubelle trop vite. Donc si on résume, voilà, moi il y a trois erreurs communes que je vois fréquemment et sur lesquelles tu peux agir dès aujourd'hui pour progresser dans le développement de ton activité de yoga et en tout cas dans tes ventes. C'est déjà donc d'avoir de penser à ce business qui doit avoir un visage, donc vraiment d'humaniser ton offre, ton compte, ta marque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de concevoir tes offres de manière à ce qu'elles soient différentes de ce à quoi je peux accéder gratuitement. Donc justement, qu'est-ce qui va donner la motivation à ton audience d'acheter et en quoi, du coup, le package que toi, tu as créé, il est unique parce qu'il est issu de ce que toi, tu as intégré de ton expérience, que tu as mix and match pour créer quelque chose d'unique et de différenciant qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et enfin, donc, la troisième étape, c'est d'être vigilante par rapport à ces lancements émotionnels qui peuvent donner du fil à retordre et nous mettre en difficulté. Et donc, bah, pour éviter d'avoir à trop réguler ses émotions ou en tout cas finalement à faire n'importe quoi pendant les up and down du lancement, eh bien avoir de la clarté et donc préparer un petit peu ce plan-là en amont pour aller jusqu'au bout et pouvoir mieux du coup rebondir ensuite. Donc voilà, cet épisode se termine. J'espère que ça t'a été utile. Alors bien évidemment, si c'est des points sur lesquels tu t'es retrouvé et que tu souhaites être accompagné, tu as bien compris que dans Yogi Bizlang, voilà, toutes ces éléments de stratégie en réalité, hein, mais pour que tu sois mieux ensuite dans ton business de yoga, eh bien on les aborde cordes dans Yogi Bizline. Donc, si tu sens que c'est le moment pour toi, tu sais que tu peux nous rejoindre quand tu veux. Si tu as besoin de plus de détails, tu peux retrouver la page d'inscription dans les notes de cet épisode. Et puis, si tu préfères en discuter avec moi, tu peux m'envoyer un DM ou m'envoyer un mail. C'est comme tu veux. Si cet épisode t'a plu, tu peux le noter sur Spotify ou Apple Podcasts. Tu peux aussi me laisser un commentaire. Et puis, bien évidemment, me partager ton écoute en story, en me taguant. Je suis toujours ravie de découvrir l'impact que peuvent avoir ces différents épisodes de podcast. Yogi Peace Podcast, c'est donc fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.